With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour Internet.
Bonjour Internet.
Bonjour Internet. On n'est pas venu seul, on est venu avec Hubert.
Rien à voir avec la start-up.
C'est notre flamme rose. C'est bon, flamme rose, je viens de l'adopter. Voilà. Rien du tout. Hubert est juste là pour parce que je l'aime. Mais on est là pour répondre à vos questions et parler un petit peu de notre parcours. Donc on vous attend sur le hashtag MadanLive pour poser vos questions, sur le forum, dans les commentaires de l'article, et bien sûr sur le chat YouTube. Et je vois qu'il y a déjà des gens. Bonjour YouTube.
Bonjour YouTube, est-ce que t'es là YouTube ?
Alors, moi je suis Clémence Bodoc, je suis la rédactrice en chef de mademoiselle.com et je suis avec Marie.
Salut Clémence.
Bonjour Marie.
Et donc moi je m'occupe des événements chez Mademoiselle.
Ça fait combien de temps que t'as rejoint l'équipe ? Parce que tu travailles dans l'ombre en fait.
Ouais, ouais,
donc,
je suis
les gens
personne,
ne savent pas.
Ouais, je suis une personne de l'ombre, c'est vrai. Même si parfois je signe des articles. Mais pour parler des événements. Et alors, je ne m'occupe pas des événements que les autres personnes font sur Mademoiselle, enfin, veulent faire montrer sur Mademoiselle. Moi, je m'occupe des événements de Mademoiselle, c'est-à-dire les gros stuff, les one-man show. On fait un vide dressing en juin, on a des rencontres avec les lectrices. Et donc, c'est moi qui coordonne un petit peu toutes ces activités-là. Et oui, c'est un taf vraiment très cool. Mais je suis arrivée en janvier, donc c'est vraiment récent, en fait.
Et c'est toi, par exemple, qui avais organisé la rencontre avec Martin Winkler.
Ouais, c'est ça.
C'était trop bien. J'espère que vous l'aviez vu. C'était en live sur Mademoiselle, d'ailleurs. Et bah, le replay est disponible, donc n'hésitez pas à le chercher sur le site. Et c'était très cool. Alors, on attend vos questions. N'hésitez pas, vraiment. Il n'y a pas de questions nulles, ni même de questions gênantes. Au pire, on rigolera.
Alors, il y a comment allez-vous Comment ça va, Clémence ?
Eh bien, ça va. Écoute-moi fort bien. Et toi-même ?
Mais écoute-moi, ça va. Il fait beau, franchement. Le soleil, il fait beaucoup. Il joue beaucoup sur mon humeur et c'est très important. Et tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va pouvoir faire bientôt des événements dehors. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Car, fun fact, c'est très dur de trouver des lieux à Paris.
Mais est-ce que... Alors, moi, je vais lancer, hein, moi, je vais lancer le Q&A, hein, si vous ne posez pas des questions. Voilà, pouvez-vous nous parler de vos formations études ? On peut, c'est pour ça qu'on est là. ben voilà, Marie, ça m'intéresse en fait, parce qu'en vrai, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait comme études.
J'ai eu un parcours un petit peu compliqué. J'ai eu un gros syndrome de la bonne élève, donc j'ai voulu aller tout droit, très vite, sans faire d'erreur. Donc j'ai fait le parcours classique licence-master avec un petit Erasmus au milieu. Donc j'ai eu une licence d'anglais-allemand que j'ai fait à l'université de Créteil, qui ne me sert absolument à rien aujourd'hui, mais c'était bien parce que ça m'a quand même permis de rentrer en master et ça m'a laissé tellement de temps libre à côté que j'ai pu m'investir dans plein d'assos. Et en fait, c'est surtout ça qui jalonne mon parcours aujourd'hui et qui fait que j'ai réussi à développer des compétences très pratiques pour mon taf actuel. C'est que déjà, quand j'étais dans des assos, j'organisais des événements et je recrutais des gens, je mobilisais. J'écrivais aussi beaucoup parce qu'il y a une grosse partie de communication sur les événements. Et donc j'ai fait un master d'infocom et un master 2 d'éducation, ce qu'on appelle l'éducation aux médias. Donc c'est l'étude du journalisme et de comment les citoyens reçoivent les messages médiatiques. Très intéressant en période de campagne électorale de savoir décrypter les messages médiatiques. Et ça, je l'ai fait, ces années de master, je les ai faites à la Sorbonne Nouvelle. Et en parallèle, j'étais administratrice d'une asso nationale qui s'appelle Jet d'encre. Je crois que Lise a déjà fait un question-réponse ici. Et Lise aussi était dans l'asso Jet d'encre. Elle était administratrice également. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Lise. Donc c'est marrant parce qu'on s'est retrouvés chez Mademoiselle. On a fait bah, toi ici. C'est fou, incroyable.
Mais c'est peut-être pas complètement innocent dans le sens où bah, on aime bien chez Mademoiselle les gens qui font des trucs.
Ah bon ?
Et oui, scoop, hein, faites des trucs dans la vie, ça peut servir. Et c'est marrant parce que c'est ce que tu racontes aussi de ton parcours, de ta implication. J'ai juste vu une question qui me parle là. Petite moi, peut-on donner le même prénom à ses deux enfants ? Eh bien, anecdote, oui, on peut. Je connais quelqu'un qui a donné le même prénom à ses deux enfants. Et c'est Najat Vallaud-Belkacem qui a des jumeaux. Elle les a appelés Louis et Nour, et les deux, ça veut dire lumière.
Oh,
scoop. Voilà.
Clémence, en fait, elle a le fan club de Najat.
En vrai, c'est juste que je m'intéresse à certaines personnalités politiques que je trouve intéressantes, dont les idées sont intéressantes. Et du coup, bah, je creuse un petit peu aussi pour savoir c'est qui dans la vie. Et quand tu cherches des infos sur une femme politique, tu trouves beaucoup d'infos sur sa vie privée, puisque bah, toute la presse féminine s'intéresse surtout à sa vie privée. Voilà, j'en sais beaucoup moins sur la vie privée de Benoît Hamon, par exemple. Alors, est-ce que tu avais passé des questions, Marie ?
À quand des événements ailleurs qu'à Paris ? Ce que vous faites est génial. Ah là là, c'est tellement la question de la mort. On aimerait tellement, tellement pouvoir faire des gros stuff, des one-man shows, des cinémas ou des rencontres avec les lectrices partout en France. En fait, c'est un crève-cœur à chaque fois d'y réfléchir parce qu'on se dit que si on le fait genre à Lyon, les Rennaises vont nous demander pourquoi vous le faites pas à Rennes, et si on le fait à Rennes, les Strasbourgeoises vont nous demander pourquoi vous le faites pas à Strasbourg, et si on le fait à Strasbourg, les Lilloises vont nous demander pourquoi vous le faites pas à Lille. Donc en fait, c'est plus une question d'opportunité. Moi, je suis arrivée en janvier aussi pour réussir à, alors ça va être barbare, hein, mais à industrialiser les événements, et c'est-à-dire faire en sorte que les événements soient un vrai pôle aussi plus rentable pour permettre à Mademoiselle de continuer son petit bonhomme de chemin. Et pour que ce pôle soit rentable, bah, il faut qu'on trouve des solutions de financement pour les événements parce que, spoiler, ça demande des financements d'organiser des événements, la location des lieux, si tu prévois de la bouffe ou des prestataires, ou même du mobilier, par exemple, sur le vide dressing qu'on organise là à Paris. Je me suis pris la tête parce que il fallait que je trouve des tables et des chaises à Paris, et en fait la moindre table en location à Paris c'est 50 €, donc en fait c'était pas du tout rentable pour nous de rentable.
Je l'ai.
Pardon. Waouh, c'est parce que j'ai faim.
Ça, Marie, moi je ris, moi tu sais bien, je suis bon public. Tu fais une blague rentable.
Mais du coup, c'est des problèmes comme ça qui jalonnent mon quotidien, hein, ma petite vie quotidienne de recherche Google assez improbable, table Paris location pas chère. Et c'est pour ça que on aimerait bien aller un peu partout, mais tant qu'on n'a pas trouvé le modèle économique qui nous permet de le faire, malheureusement on peut pas, mais c'est vraiment dans notre volonté de le développer.
C'est ça, en fait Mademoiselle n'a pas du tout vocation à être un magazine parisien.
Ouais, carrément.
Et d'ailleurs c'était pas parisien à la base, c'était lillois, et c'est bien parce que toute l'activité économique est à Paris qu'au bout d'un moment, pour se développer, Mademoiselle a été obligée de venir à Paris, mais clairement c'est pas une finalité. En fait, on s'est pas posé dans le 10e arrondissement en mode allez, on est bien. Ciao la province. Donc bien sûr que le but c'est toujours de revenir à vous, et vous êtes partout, et merci beaucoup pour ça. C'est juste que, comme l'explique Marie, pour développer des pôles dans une entreprise, il faut de l'argent, et que on est sur l'internet, le modèle économique c'est une constante recherche en fait d'équilibre, et que pour l'instant sur les événements c'est tout nouveau, c'est tout neuf. Il y a eu une première chargée des événements qui a essuyé les plâtres, et là on a toi qui a plus d'expérience de bouteille sur le sujet, qui polie les plâtres.
Je tente le ciment, du coup.
Exactement, solidifie tout ça.
Avant on faisait avec du sable, maintenant on a compris comment mélanger pour faire du ciment.
C'est ça.
Et après on fera les peintures.
Absolument.
Ouais. Est-ce que t'aimes la maçonnerie, Clémence ?
Écoute, j'ai fait de l'audit dans le BTP, donc je m'y connais un petit peu en chantier.
Il y avait une question intéressante pour toi, c'est est-ce que t'as une anecdote marrante sur ton arrivée à Mademoiselle ?
Alors, il y a le fait que je me suis trompée d'adresse, comme beaucoup de gens, parce qu'on est au 40 bis rue du Four-Poissonnière, et que le 40 c'est à côté. Je me suis deux fois trompée d'adresse, en fait. Je suis d'abord allée dans le boulevard Poissonnière au lieu de rue du Faubourg-Poissonnière, puis le mauvais numéro, parce que j'étais extrêmement stressée ce jour-là. Voilà.
Franchement, à qui ça n'arrive pas, vraiment.
Pire que le premier jour d'école. J'avais 40 minutes d'avance, et je suis arrivée avec 5 minutes de retard, et j'étais... Oh my god.
Et t'as eu ton entretien avec Fab ?
En fait, j'avais rencontré Fab en novembre 2010 parce que j'avais découvert Mademoiselle genre 6 mois avant. Et depuis, j'étais devenue accro. J'avais googlé combien ça coûte d'être une fille. Et j'étais tombée sur un article de Maya Mazorette parce que c'était pile le titre de l'article. Et depuis, je suis plus partie du site en fait. J'ai lu tous les instants putassiers pendant mon stage. Je fermais la porte tellement je riais fort. C'était chaud. Et en fait, un jour, j'ai vu le film Potiche au cinéma. Et j'ai trouvé ce film génial pour toute la métaphore, le féminisme de ce film, en fait, très actuel. Alors qu'il se passe dans les années 70, donc ça fait un peu vieillot alors que pas du tout. Et j'ai écrit une critique que j'ai envoyé à Mademoiselle avec un mail pour dire, comme on en reçoit plein, et merci beaucoup pour ça, vraiment, pour dire, j'adore ce que vous faites, c'est vraiment, vous avez tout pigé, j'ai jamais vu un magazine féminin pertinent comme vous l'êtes, vraiment merci beaucoup, bisous. Et comme j'avais envoyé la critique pour dire, faites-en ce que vous voulez, moi je serais trop fière si vous la publiez, mais voilà, c'est cadeau, et j'ai eu une réponse de Fab qui me proposait qu'on se rencontre et qu'on discute, et c'était grosso modo mon premier entretien, mais j'avais un premier travail très très bien payé à Paris, et alors que je venais de quitter Lille, donc j'étais pas trop chaude pour à ce moment-là, changer de trajectoire à ce moment-là de ma vie. Et surtout, je me suis dit, j'ai envoyé ça comme une bouteille à la mer, et ça a marché. Enfin, il me propose de venir écrire pour Mademoiselle. En vrai, ça marchera une deuxième fois avec quelqu'un d'autre, si plus avec Mademoiselle. Donc ce coup-ci, je laisse passer ma chance, tout en ayant conscience que c'était une vraie chance que je laissais passer. Voilà. Et 3 ans plus tard, je suis revenue en chroniquant la campagne présidentielle et j'ai fini par quitter ce job très très bien payé pour de toute façon revenir écrire pour Mademoiselle, parce que j'ai essayé ça, j'ai essayé l'autre vie entre guillemets, jeune cadre dynamique, le studio, le salaire, tout ce qui va bien, et ça n'avait pas de sens. M'épanouissait pas. Alors que ce que je fais chez Mademoiselle, ça m'épanouit.
Mais c'est marrant parce que quand on décrit nos parcours, souvent on a l'impression que c'est beaucoup de chance. Et moi, ce que j'ai appris au fil du temps, c'est que cette chance, on la provoque. Et souvent, parce qu'on fait des trucs audacieux qu'on ne nous conseille pas d'habitude. Typiquement, les candidatures spontanées, on va croire que c'est un truc de gros rat, genre vas-y, t'as un requin parce que t'envoies une candidature spontanée. Non, alors en fait, parfois, il y a des boîtes comme Mademoiselle qui recherchent régulièrement des personnalités, et si ça se fait pas au moment M, ça peut peut-être se faire plus tard. Et moi, j'ai l'impression que rien que le fait de provoquer la rencontre avec ces personnes, comme moi en fait, je suis rentrée dans Mademoiselle un peu comme toi, parce que j'ai rencontré Fab, sauf que moi j'ai pas rencontré Fab pour venir bosser chez Mademoiselle. C'est ça qui est marrant. C'est que je discutais, c'était une période de ma vie où je me demandais quel était le next step pour moi, parce que avant d'être chez Mademoiselle, j'étais responsable de la com d'une asso nationale qui s'appelle AnimaFac, qui est une asso un réseau d'associations étudiantes, et je connaissais Fab. Je connaissais Fab et je me suis dit il a sûrement de très bons conseils à me donner sur ma recherche d'emploi, il connaît plein de gens, allons boire un café avec lui. Et c'est ce qu'on conseille en fait beaucoup en région parisienne. Je sais pas si ça se fait dans les autres villes, mais en tout cas en région parisienne, on conseille, plutôt que d'envoyer un CV, une lettre de motivation, d'aller rencontrer directement les gens qui bossent dans certaines entreprises, parce qu'en fait ça ouvre des portes. Et sur le coup, Fab m'a pas forcément dit Il m'a pas forcément dit je t'embauche. Par contre, il m'a dit je vais y réfléchir. Et finalement, quelques mois après, je me retrouvais chez Mademoiselle. Donc c'est une question d'opportunité et de. Enfin moi, mon parcours, c'est vraiment beaucoup de rencontres en fait, et de bonnes discussions. Je vois la question de Mathilde qui est un peu en lien avec ça.
Salut Mathilde. En direct d'Avignon, j'imagine.
Oui. Mathilde qui a organisé une super semaine de la tolérance.
De l'égalité et de la tolérance. L'égalité, voilà. À Avignon, et c'était vraiment très très bien. Bravo.
Ouais, c'est Mathilde qui est une. Justement, toi, tu es une étudiante engagée au sein de la FAGE. Donc c'est vrai que je comprends que tu sois sensible à nos parcours, à Clémence et à moi, parce qu'on est aussi des étudiantes engagées. On a été des étudiantes engagées à notre façon. Conseillerez-vous de s'engager pendant... Oui, moi bien sûr, je
dis la question à...
Ouais, vous êtes toutes les deux investies dans des associations et mouvements étudiants. Conseilleriez-vous de s'engager pendant le parcours universitaire? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Beaucoup de nuits blanches. des belles rencontres, beaucoup de compétences, et notamment beaucoup de compétences sociales qui sont très utiles dans le monde du travail. Et clairement, je pense que j'en serais pas là si je m'étais pas engagée dans les assos comme je l'ai fait dans mon parcours.
Totalement. Vraiment, qu'est-ce que ça m'a apporté, mes engagements étudiants? Alors, j'étais trésorière du bureau des étudiants de Sciences Po Lille. Je me suis engagée en politique parce que voilà, c'était en 2006-07, il y avait la campagne présidentielle, j'étais chez les Jeunes Socialistes, puis EPS. Après, j'ai pu pris ma carte, mais j'étais plutôt chez les Verts, mais sans rejoindre vraiment le parti. Je vais lier ta question, Mathilde, avec celle de Manka. Tu faisais quoi comme job avant, Clémence? Et ben, en fait, je suis sortie de Sciences Po Lille et j'ai fait de l'audit interne dans un grand groupe, de BTP Construction. Et alors, c'est très intéressant parce que, oui, mes engagements étudiants m'ont fait avoir un job. J'ai eu le stage de fin d'études dans cette boîte parce que je maîtrisais Excel, que j'avais appris à maîtriser quand j'étais trésorière du bureau des étudiants. Vraiment, ça s'est joué à... Alors, bien sûr, j'ai fait un bon entretien, j'ai fait des bonnes études, mais je sais qu'on était plusieurs en shortlist pour ce stage. Et on m'a demandé ce que je savais faire sur Excel. Et j'ai dit, je sais m'en servir, j'étais trésorière, j'ai parlé de cette expérience et de concrètement les usages que j'en faisais. Et j'avais des formations, enfin, je m'étais... J'avais pris en main l'outil, quoi. Donc, je savais faire des tableaux croisés dynamiques, des analyses, des graphiques, enfin, Excel. Et ça s'est joué à ça. Vraiment.
Comme quoi, Excel.
En fait, quand tu t'engages dans une asso, quelle qu'elle soit, tu sors du cadre. Parce que dans une asso, même s'il y a beaucoup de structures, il faut faire les trucs, en fait. Tu peux passer une année universitaire sans rien foutre. Alors peut-être que à la fin, tu n'auras pas tes examens. Mais en vrai, il peut se passer tous les jours. C'est comme la marée, en fait. Tu peux te laisser porter par le courant. Alors que dans une asso, tu peux pas faire ça. C'est-à-dire ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, personne t'oblige à être là. Et si tu ne fais rien, il se passe rien. Parce que c'est toi qui dois faire les projets, etc. J'ai aussi participé à l'organisation d'un festival quand j'étais à Sciences Po Lille qu'on a organisé. C'était une asso étudiante qui faisait ça. Enfin, juste au bout d'un moment, ça t'oblige à faire les trucs, à te rendre compte que c'est pas si compliqué que ça. Qu'en vrai, c'est kiffant de faire les trucs. Je sais pas, c'est le premier exercice du pouvoir, mais au sens concret. C'est pas de donner des ordres aux autres, c'est de te dire, j'ai une idée. On va la convertir en quelque chose de concret. Un événement, un journal, une rencontre, ce que tu veux. Mais c'est super kiffant. Ouais. Donc voilà. Et en plus, à la fin, j'ai du travail.
Ouais, et t'as... ce qui est fou, c'est que souvent, tu arrives à avoir un impact direct sur ton environnement. Et je crois qu'on a tous la volonté de changer le monde à plus ou moins long terme, ou en tout cas de vivre dans la société, notre société idéale, et contribuer à cette société idéale. Et en fait, quand on s'engage dans une asso à petite échelle, dans son université, ou quand on s'engage, je sais pas, sur Internet, on se rend aussi vite compte de l'impact qu'on peut avoir, et c'est tellement gratifiant parce que c'est pas une question de, pour le coup là on nous note pas, c'est pas 8 sur 20 en engagement étudiant, en fait c'est pas du tout le principe. Et moi je changerais pas du tout les choses telles que je les ai vécues, même si ça a été source de stress à bien des moments, parce qu'on te fait croire que ton parcours doit être linéaire pour plaire aux recruteurs, mais en fait, ce sont des opportunités qui s'ouvrent progressivement dans ta vie. Et du coup, peut-être la question que vous vous posez, c'est concrètement, c'est bien beau, mais comment on fait en fait pour s'engager quand on est au lycée, dans ses études ou quand on est actif? Il y a plein de ressources qui existent. Je vous conseille, si vous êtes étudiant, d'aller faire un tour sur le site d'animafac.net. Et notamment, Animafac, eux, ils ont des volontaires en service civique dans à peu près toutes les villes universitaires qui peuvent vous aider à vous mettre en relation avec des assos étudiantes sur des thèmes dont vous êtes sensible. Parce qu'en fait, des assos étudiantes, il y en a vraiment sur tous les thèmes. Il y a des assos de culture, de cinéma, des assos de théâtre, des assos d'environnement. Il y a aussi des organisations représentatives. Si votre truc, c'est la défense des droits des étudiants, enfin vraiment. vraiment, c'est hyper, hyper large. Pour ce qui est du lycée, c'est la maison des étudiants, la maison des lycéens, pardon, qui peut être une bonne ressource. Et pour tout ce qui est engagement dans d'autres assos, bah, regardez dans votre mairie quels sont les assos qui existent dans votre ville. Faites des recherches avec le nom de votre ville et association. Et puis, c'est un moyen direct, en fait, d'être utile. Moi, je suis en train de me demander justement si je vais pas essayer de rejoindre une asso de solidarité locale très, très sociale, en fait, parce que je me demande où est-ce qu'on va, là. je me demande socialement où est-ce qu'on va, et j'ai envie d'être plus utile auprès de personnes plus en difficulté que moi. Et je pense que ça va être ma première démarche, ça va être googler Maison Alfort, association, et voilà.
Et j'ajoute que si le projet que vous voulez porter ou l'asso que vous cherchez n'existe pas,
créez-la. Mais oui. C'est plus simple que ce qu'on croit.
Est-ce que, par exemple, quand tu cherchais une association qui mettait en valeur les femmes sur Internet, t'as googlé, tu t'es dit, il n'y en a pas. Je me suis dit, banco, on en fait une. Je parle bien sûr des internets cofondés par Marie. Et est-ce qu'il y a un bon exemple d'une démonstration, en fait, ici présent, que le temps, ça se trouve, en fait, quand t'as vraiment envie de t'engager, un truc qui te tient à cœur. Le temps se trouve, il a plus de valeur, je trouve personnellement, quand tu l'investis dans les choses qui ont du sens.
Ouais.
Que oui, si en fait, si je me pose et je me dis où est-ce que j'ai le temps de faire autre chose que mon travail ou d'avoir ma vie sociale, etc. Sur le papier, il n'y a pas, parce qu'il n'y a que 24 heures par jour, on dort, machin, c'est compliqué. Par contre, quand je m'engage sur un projet, dans une campagne quelque part, etc. Oui, effectivement, ma deuxième année à Sciences Po, j'ai peu dormi.
Ouais.
C'est vrai. Mais est-ce que je regrette ? Non.
Ouais, ouais.
Voilà. Je voudrais répondre à trois questions en une. Je vais faire une salve. Alors, c'est Tamanoa. Question à Clémence. Depuis ton investiture en tant que rédac' chef en septembre dernier, qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien professionnel ? En même temps, Gaëlle, sur Facebook, me demandait pourquoi avoir mis de côté les articles société et politique. Avant, il y avait beaucoup plus de contenu là-dessus. Et Amandine, je me pose la question, mais que fait Fab maintenant que Clémence l'a remplacée ? Réponse 3 en 1. Eh bien, depuis que je suis rédac chef, je m'occupe en priorité d'abord de la rédac. La rédac qui sont bah, les rédactrices, évidemment, mais on a aussi la secrétaire de rédaction qui est Manon qui relit tous les articles, Mimi qui est mon adjointe, mais on a aussi deux graphistes, Hélène et Léa, deux vidéastes en ce moment qui sont Dorothée et Julia. Et en fait, tous ces gens sont... Louise qui s'occupe des podcasts que vous connaissez, si vous êtes en live. En fait, il faut s'occuper de tous ces gens au quotidien, les aider à décider qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui en priorité. On a sans arrêt des sollicitations, on a sans arrêt des idées. Et il ne faut pas enfermer les gens dans des to-do list qu'on déroule simplement. Il faut au quotidien, sans arrêt, mettre de la dynamique là-dedans. Et ça, c'est un job à plein temps. Raison pour laquelle je fais moins d'articles Actu Société. Bien sûr, quand moi-même j'ai bah, cette même envie, cette même inspiration, cette même énergie, je dis ok, laissez-moi une heure, je vais écrire. Mais mes articles demandent souvent beaucoup plus de temps, de recherche, de ce que je pouvais difficilement faire au début de l'année, parce que je débute dans le management. Avant, j'avais écouté une expérience de management assez solide, puisque en 2012, j'ai managé un stagiaire pendant 3 mois. Voilà. Du coup, je suis solide.
C'est déjà chaud, hein. Cela dit, trouver du taf pour un stagiaire.
En fait, comme c'est moi qui le réclamais, ouais. C'était sur un projet particulier. C'est pour ça qu'on l'a eu que 3 mois. En fait, c'était sur un projet spécifique, un projet d'école en plus. En bref, c'était. Bref, on peut pas parler d'une expérience en management. Du coup, oui, j'ai passé depuis septembre vraiment mes 6 premiers mois de rédactrice en chef à prendre mes marques. Et que fait Fab pendant ce temps-là ? Eh bien, il s'occupe du reste de l'entreprise, puisque vous, côté lectrice, vous voyez uniquement ce qu'on produit, mais vous voyez pas comment on le produit. Et on a notamment une régie commerciale qui s'occupe de négocier des partenariats avec des marques. Par exemple, vous voyez souvent que des films. Pourquoi gagner de l'argent ? Avec les films, vous voyez ça souvent, c'est-à-dire que conformément, enfin, on est en partenariat avec tel distributeur et on va là, on fait une critique du film, on fait des contenus autour du film, etc. Ça, c'est négocié par la régie. Et on a aussi des développeurs. Big up Laila pour notre lead développeuse pour la refonte du site. Elle est aidée de Bérénice et Younes. Donc voilà, ça fait quand même c'est une entreprise de plus en plus grosse, mademoiselle.
Ouais.
Et voilà, donc Fab n'a pas de quoi chômer juste parce que moi, je m'occupe de la rédaction, il s'occupe aussi de moi, du coup de la rédaction, parce que voilà, comme je le disais, j'apprends. Donc voilà, Je pense que j'ai un de ces quatre. Je raconterai un petit peu mon expérience. Pour l'instant, c'est encore assez. Enfin, c'est trop frais en fait. J'ai trop le nez dans le guidon pour pouvoir avoir du recul là-dessus. Mais c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec vous, évidemment, parce que c'était une grosse marche pour moi. Comme je plaisante en disant que j'avais managé un stagiaire, mais en fait, c'est vrai. Et c'est vraiment le poste avec le plus de responsabilité que j'ai occupé dans ma vie. Donc ouais, c'est un grand morceau et je prends le temps de le mâcher doucement. Cette image n'était pas très intéressante, mais vous comprenez où je veux en venir.
On pourrait plutôt dire que tu t'es mise en marche, finalement.
On a tenu combien de temps à faire une action en marche? 30 minutes, c'est pas si mal.
C'est un peu le truc insupportable. Moi, je fais beaucoup de blagues politiques. Mais d'ailleurs, c'est marrant que tu racontes justement autour des sujets société, parce que moi, je fais partie de ces lectrices de Mademoiselle qui sont rentrées sur Mademoiselle par le biais des articles de Clémence. Et à chaque fois qu'un article de Clémence sortait, j'étais en mode « Un article de Clémence !»
Oh, yeah.
Ça va être tellement juste, je suis sûre que ça va être tellement juste et je vais tellement m'ouvrir l'esprit grâce à cet article. Vraiment, enfin, je crois que j'ai pas eu l'occasion de te le dire, mais c'est grâce à toi que j'ai construit pas mal de mes argumentaires à une période de construction de ma pensée féministe aussi. Et c'était, enfin voilà, c'est très cool. J'aime tout ce que vous faites, s'il vous plaît, faites-en plus.
Merci beaucoup. Écoute, je te retourne le compliment parce que j'ai découvert ton blog un peu par hasard dans mes internets et c'est vrai que les billets que tu écris sur ton blog, c'est pareil, c'est une vraie réflexion sur la société et sur la place des jeunes dans la société. Donc notamment, enfin, l'article que tu avais fait sur les youtubeurs il y a 2 ans déjà maintenant, je crois, sur le mépris des médias envers les youtubeurs, etc. C'était pour moi un des meilleurs articles que j'ai lu sur le sujet. Je dis pas le meilleur parce qu'on en a fait un chez nous et que voilà, je suis corpo, mais ex aequo. De toute façon, enfin, on était cités dans cet article, etc. Parce que c'est une base. Je plaisante. Il a servi comme vraie base pour pouvoir écrire le nôtre et encore récemment, je t'ai vu publier sur ce que ça veut dire de s'engager. clin d'œil, ça n'est pas juste mettre un bulletin dans l'urne. Il y a 1000 façons de le faire au quotidien et sans doute plus concrètes d'ailleurs que de s'arrêter au vote ou au non-vote. Et encore une fois, voilà, j'ai pas eu l'occasion de te le dire.
Oh,
c'est du direct. Bravo pour cet article.
Tout est en direct. Merci beaucoup. Vivez ça avec nous. Tu vis ça avec nous, Internet. Merci Louise, merci. Vous voyez les belles rencontres. Voilà. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Alors, ce n'est pas possible de créer des annexes dans d'autres villes? J'ai vu, ça va répondre aussi à la question des personnes qui disent « Ah, oh, si tu veux, je peux te filer un coup de main sur les événements ». En fait, ma difficulté, c'est que je travaille... Alors, je travaille beaucoup avec la rédac sur les événements parce que tout ce qui est idées, rédaction d'articles, etc., on le fait ensemble et pour imaginer les meilleurs événements possibles, on le fait tous ensemble. Par contre, dans l'organisation logistique et méthodologique, je suis toute seule. Et du coup, forcément, organiser des événements dans d'autres villes ou permettre à d'autres personnes d'organiser des événements, ça demande un suivi. Et ce temps de suivi, malheureusement, je ne l'ai pas aujourd'hui. Donc, ce n'est pas non plus possible de déléguer pour le moment. Mais voilà.
Un certain Thomas Urquhart te drague en direct, c'est gênant.
Ouais, cyberharcèlement, chaud. Concrètement, quelles sont, je sais pas si c'est intéressant de répondre à ça dans ce cadre-là, quelles sont les étapes pour créer une asso officielle?
Je sais pas, t'es où?
Manca.
Ah oui, pardon.
Le site servicepublic.fr qui vend du rêve rien que dans son URL est très clair sur comment on crée une asso et c'est vraiment tout est expliqué sur ce site là mais en gros il faut s'entourer, enfin je dirais que le principal d'expérience c'est quand même de s'entourer des bonnes personnes. Je pense que c'est ce qui demande le plus de temps et d'énergie, c'est de coordonner toute cette énergie bénévole autour d'un projet et le reste c'est 5% d'administratif et 50% d'exécution de projet. Mais oui, ça fait pas 100%, mais en même temps, j'ai fait un bac littéraire, donc on s'en fout.
D'où l'importance d'avoir un bon trésorier, une bonne trésorière. Qui a fait un bac S, par exemple.
Si tu veux, on peut clasher les ES ensemble.
Oui. Le cul entre les chaises des ES. est-ce qu'on a... Vous pouvez parler des internets. Est-ce que tu peux parler des internets? Vous en êtes où?
Oh, c'est une belle association. Où est-ce qu'on en est? Je peux teaser un truc dont on n'a pas encore parlé. Une super OP dont on est très fiers avec la métropole lilloise. En fait, on va permettre à 4 créatrices vidéo de partir à Lille pendant un week-end et de faire chacune une vidéo thématique sur la métropole lilloise. Je spoil complètement, mais il va y avoir Cyrielle qui va faire une vidéo plutôt autour de l'art et de la culture. Kali de la chaîne Les Topovores Kalidoscope qui va s'intéresser, alors de mémoire c'est la dimension, elle va faire deux vidéos, une sur la parentalité, donc en gros la parentalité à Lille, et une autre vidéo, mais je me souviens plus du thème, une petite vidéaste qui est pas très connue mais qui fait des super vidéos qui s'appelle Passé Sauvage, qui va elle prendre le prisme plutôt historique, et une certaine Sophie Riche qui va s'intéresser à la culture gastronomique du Nord.
Spoiler alert, je pense que ça parlera de bière et de fromage sans vouloir me
de
prononcer
aussi, peut-être un petit peu. On est qu'est-ce qui s'est passé?
C'est juste l'écran qui a sauté. C'est bon, Louise, t'inquiète pas.
C'est un des projets des internets à venir. On va faire ça. On va sortir toutes ces vidéos fin juin et ça devrait être assez convivial. Voilà. Oui, tout à Lille. Bah oui, vous voyez, on peut faire des trucs à Lille, mais j'avoue, ça demande beaucoup d'énergie.
Il y a Sexpédition qui demande, pour le cas des internets, quel est l'avantage que ce soit une association plutôt qu'un truc non officiel? Tu veux dire plutôt qu'un collectif qui n'a pas d'existence juridique?
Ouais. En fait, c'est exactement ça. C'est juste, on avait besoin d'une reconnaissance juridique pour pouvoir... pour pouvoir mobiliser autour de nous, parce que la petite page Facebook... Enfin, je dis la petite page... des formations féminines, mais cette page Facebook qui a, je sais plus, 22 000 likes, je dis ça comme ça, vous pouvez aller la liker, c'est les internets de TES. Sur cette page-là, on pouvait pas permettre aux gens de se rencontrer, en fait, aux créatrices de se rencontrer, on pouvait pas permettre aux gens d'adhérer à la démarche et de soutenir les créatrices directement. Donc, quand on a créé l'asso, on a créé en même temps un compte en banque qui nous permettait de récolter des adhésions et d'utiliser l'argent de ces adhésions pour les projets des internets. Et du coup, dès qu'on veut monter des projets, quand on veut faire émaner des devis ou des factures parce qu'on a des demandes d'intervention, par exemple, on est obligé en fait d'avoir cette forme juridique-là. Et c'était important pour nous d'ailleurs de le faire avec une dimension d'intérêt général, et c'est pour ça qu'on a choisi l'organisation associative, parce que le projet des internets, c'est pour l'intérêt général, c'est faire en sorte que plus de femmes puissent s'exprimer librement partout en fait, et d'ailleurs pas que sur internet, c'est un peu ça notre objet plus large en fait.
Alors il y a Elodie elle qui demande, quel âge avez-vous? T'as quel âge, Marie?
J'ai 27 ans.
Moi, je vais avoir 31 ans en décembre. Fun fact, non seulement je suis née le même jour qu'Emmanuel Macron, 21 décembre, mais en plus, ça veut dire que j'ai seulement 8 ans de moins que le nouveau président de la République.
Ah, c'est chaud.
Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est chaud.
Notez la date. Bodoc 2022. Non, je serai trop jeune.
27. 2027.
2027. En 2025, j'aurai 39 ans, donc on peut dire 2027, voilà, comme ça. Okay. Je ne serai pas la plus jeune présidente de la République française.
Mais... Et si tu cherches quelqu'un pour organiser tes meetings,
directrice de campagne, c'est bon, on a le ticket. Prenez date.
On s'est dit rendez-vous dans 9 ans.
En plus, je contrôle déjà un média.
Ah, c'est pour ça, tout est écrit. Et en fait, plus tard, dans le futur, on a créé une machine à remonter le temps. Et là, t'es venue remonter le temps pour annoncer ton... Tu vois, t'es en train de placer tes billes. Voilà.
Non,
en fait, elle est déjà... Tout est écrit. Tout est écrit. Belle philosophie. Tu ne seras pas présidente des maths.
Oh, je suis pas dans les calculs, c'est ça. Alors que pourtant, j'ai pris ma calculatrice.
Oh mon Dieu, elle a vraiment fait... T'as vraiment fait le truc sur la calculatrice pour voir dans combien de temps tu serais présidente de la République.
Non, fallait que je calcule les années d'élection.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Et du coup, c'est quoi son programme?
Mais ça.
Plus de flamants roses.
J'aurais pas dû faire l'expression de surprise, j'aurais dû répondre. L'importance d'une campagne, ça n'est pas le programme, c'est la vision.
Parce que c'est notre projet.
L'égalité.
Bodoc 2027.
Et ben voilà.
Voilà. Qui fait les badges? À quand la science sur Mademoiselle? Bah, du coup, pas tout de suite, parce qu'on a une campagne à monter.
Ah, bah, du coup, maintenant, oui. Redonnons sérieux 5 minutes.
Ouais, en plus, il y a des questions éditoriales là, c'est intéressant. À quand la science et est-ce que c'est prévu de faire des podcasts littéraires?
À quand la science sur Mademoiselle? Ouais. En fait, la science, c'est un peu pareil que les événements dans le sens où il n'y a aucun sujet ou aucun projet qui n'est pas intéressant pour Mad, a priori. C'est plus le côté qui vient le faire, avec quels moyens. Et en fait, aujourd'hui, on a fait des tentatives. Hein, il y a dans des articles scientifiques, il y a eu des podcasts scientifiques, etc. Je suis au regret de vous annoncer que le public n'est pas au rendez-vous. Donc, nous, contrairement peut-être à d'autres, on va pas s'arrêter là en disant « Bah, c'est normal, c'est des gonzesses, elles s'en foutent de la science ». Non, ça va pas être la réflexion qu'on se fait. Ça va juste être de se dire « On va pas ouvrir une rubrique 100% scientifique et bourriner des articles scientifiques si, quand on en parle comme ça, de façon opportune, en fait, quand un sujet se présente, ça n'a pas plus de succès que ça. Donc, à quand la science sur Mademoiselle? Quand il y aura... On lance le cercle vertueux de ça, on fait des petits articles scientifiques pour voir comment ça prend. Ça prend pas très bien, c'est pas grave, on continue, mais on va pas s'obstiner non plus. Voilà, j'ai terminé sur ce sujet.
Il y a Louise qui est un peu plus qu'on fasse des blagues sur En Marche.
C'est pourtant une énorme... C'est une source de blagues très sympathique. Hein. Ouais, je prépare largement les blagues. Hey, faites plutôt des blagues En Marche que des blagues sur Brigitte Macron.
Oui, c'est vrai. Et t'as vu cette séquence de BFM où quelqu'un explique qu'il y a un mec qui est venu voter littéralement à reculons parce qu'il allait voter à reculons.
Alors, c'est artistique, c'est intéressant, mais je déconseille ce genre de manif dans des bureaux de vote parce que tu peux faire invalider le bureau de vote. En fait, si tu fais quelque chose qui porte atteinte à la sincérité du scrutin, tu peux faire annuler ton bureau de vote. Et par exemple, en 2002, il y a des gens qui avaient été voter Chirac avec des gants et des pinces à linge sur le nez. Et en fait, c'est noté au procès-verbal du bureau et ça peut être annulé. Donc après, il faut que les résultats soient suffisamment serrés pour que le nombre de voix ainsi annulées ait un impact sur l'élection. Quand on voit que les écarts sont à plusieurs millions de voix, ça va, c'est bon, on peut faire annuler le bureau de vote de trifouiller les voix sans avoir à revoter. Ouais. Mais voilà, c'est pas prévu pour quoi. Le jour de l'élection, c'est vraiment juste, on compte des bulletins dans une urne. Voilà. Toutes les autres formes d'expression, c'est tout le reste de l'année, sans arrêt. C'est même ce jour-là, mais en dehors des bureaux de vote.
Ouvre une chaîne
juste
YouTube.
Les bureaux de vote, est-ce qu'on peut voter ou pas voter, faites ce que vous voulez, mais juste pas de manif dans des bureaux de vote. C'est pas le lieu.
SVP.
Moi, j'ai fait du droit constitutionnel, en fait, à Sciences Po. C'était ma grande matière préférée, j'adorais ça. Comprendre les institutions. C'est pas si compliqué, en vrai, ça me surprend qu'on l'apprenne pas au lycée. C'est très, très accessible de comprendre tous les différents degrés de l'État. Juste de savoir, en fait, qu'est-ce que le maire peut vraiment faire, qu'est-ce que le préfet fait ou ne fait pas. Voilà, quand on t'envoie de la police, c'est quelle police, à qui elle obéit, parce qu'il y a celle qui dépend du ministère de l'Intérieur, il y a les pouvoirs de police du maire. Enfin, tout ceci n'est pas si compliqué que ça, en vrai. En vrai, c'est plus facile de comprendre le fonctionnement administratif de la France que les équations du second degré à deux inconnus.
J'avoue.
Je dis ça, j'ai fait S et Sciences Po, je sais de quoi je parle.
Moi, j'aimerais bien que le programme du lycée soit plus tourné vers l'éducation civique et globalement qu'on nous explique comment faire certains trucs, genre comment tu déclares tes impôts. Je pense que c'est important qu'on ait tous le même niveau de connaissances de base sur le droit et sur le fonctionnement de nos institutions. Et aujourd'hui, l'éducation civique, c'est l'enseignement moral et civique, je crois que ça s'appelle maintenant, EMC, c'est catastrophique. Et c'est comme d'hab, c'est toujours remplacé par les cours d'histoire géo parce que le prof n'a pas fini le programme, quoi. Donc, vraiment, c'est cool de pouvoir faire des études supérieures qui nous ouvrent à ces questions-là, mais c'est déjà trop tard, en fait. Enfin, vraiment. Et alors, il y avait une question sur les événements. Est-ce qu'il y a des événements qui sont prévus? Alors, il y a une question très spécifique. Ce week-end, non. Il n'y en a pas ce week-end. Par contre, ce soir, on a un one-man show.
Et ouais,
à la nouvelle scène. Est-ce que je peux... Je vais faire un truc. Il y a combien de personnes sur le live? Est-ce que il y a des gens super importants ou pas? Parce que je peux peut-être dire, c'est qui notre invité surprise? Rien que pour toi, YouTube et Facebook. Et la Terre entière, du coup.
Ah oui, c'est parce qu'on a un invité surprise.
Bah oui, parce qu'en fait, donc c'est Marine Baousson qui organise la soirée comme d'habitude. Et elle fait venir Solène Rossignol, qui est apparemment un super spectacle. Elle fait venir... Fabien Olicard, qui a une chaîne YouTube sur laquelle il parle de mentalisme, et en fait il est sur scène aussi en parlant de mentalisme. Il y a plein d'artistes. On va avoir un petit medley comme d'habitude avec Émilie Gassin, Perrine Maigret, Luciole. Il y a pas Lola cette fois, mais ça va être très chouette quand même. Et donc on a un artiste qui est dans le, bon allez, je vais vous le dire, le top 7 des ventes en ce moment dans les one man show parisiens, et qui s'appelle Haroun, H-A-R-O-U-N, et qui apparemment est vraiment super cool. Donc on est super content de l'avoir. On n'a pas pu l'annoncer parce qu'il va tester des sketchs ce soir. Et moi, je suis persuadée que ça va être très bien, mais bon, vous connaissez le syndrome de l'imposteur des hommes, hein, c'est un vrai problème. Hein.
On n'en parle pas. On parle d'une autre.
Voilà, et merci Louise de mettre le lien pour...
Cool.
Si vous voulez, c'est seulement 5 euros. Et il y a un chapeau, en fait, à la fin pour les artistes, parce que les artistes viennent jouer sur scène pour nous. Et, à la et en fait, on les paye, nous, on ne les paye pas. C'est vous, à la fin, qui mettez dans le chapeau et qui les remerciez, quoi, pour... pour leur prestation exceptionnelle, voilà. Donc ça, c'est pour ce soir. Et on a d'autres événements en mai. C'est un peu blindé, hein, mai. Et on me demandait, je crois, ce que j'aimais le plus dans l'événementiel. Je vais répondre, j'aime être blindée de taf. J'adore ça. J'adore gérer plein de trucs en même temps. C'est un vrai problème dans ma vie. J'adore ça. Et c'est pas très simple après pour organiser sa vie. Il faut vraiment être assez organisé. Mais du coup... on va avoir la grosse stuff, comme le disait Louise dans le chat, le 19 mai à la Bellevilloise, donc de 23h30 à 6h du matin, et c'est une super ambiance. On fait un karaoké géant, complètement décomplexé, vraiment.
J'adore. Moi, j'aime pas trop les ambiances de boîte, mais ouais. La grosse stuff, je suis pas du tout
la même chose, quoi.
Parce qu'il y a deux salles, deux ambiances, surtout quand on l'a fait à la Bellevilloise, comme le 19 mai. Ouais. Et voilà, si t'aimes la boîte, bah, c'est au sous-sol, il y a ce qu'il faut. Et si t'es plus... t'es gosillé sur du garou, et ben le karaoké géant, c'est le meilleur lancement de soirée. Et ça, on le fait durer suffisamment longtemps pour faire durer le plaisir, justement.
Ah ouais,
c'est
vraiment
très bien.
Donc,
j'y serai.
Ouais, et en plus, on n'étouffe pas. Enfin, c'est vraiment génial, la Bellevilloise, pour ça qu'on est vraiment bien. Le flow, la dernière fois non plus, c'était pas du tout étouffant. Enfin, vraiment, c'est cool. Ça change des ambiances de boîte habituelles à Paris. Et on a un cinémaz, je vais l'annoncer cet après-midi, exclusivité, encore une info.
C'est celui auquel je pense.
Alors, c'est The Jane Doe Identity. Rien qu'en écrivant l'article, je flippe, ma mère, car il a l'air très très flippant. Et j'ai lu la revue de Aki qui parle du film qu'elle a vu en avant-première à Gérard May, et qui est un festival. Et tout l'article dit qu'elle a flippé sa mère, donc je vais flipper ma mère moi aussi, mais je crois que je vais bien aimer quand même. Et donc ce cinémaz, c'est au MK2 Bibliothèque à Paris, et l'article sort cet après-midi, mais c'est comme d'habitude 4,90€ seulement pour voir un film en avant-première. Waouh, incroyable, c'est génial, mademoiselle. Oh oui, oui, on est d'accord.
Merci Louise qui vous donne les liens en direct sur le chat. Donc,
oui, voilà, c'est... très bien. Quelle coordination.
J'aime trop. J'ai Juliette qui demande, est-ce que vous allez parler plus d'écologie? J'aimerais bien. En vrai, j'aimerais beaucoup. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur, puisque je suis moi-même végane depuis 2012, pour essentiellement, parmi plein de raisons, des raisons écologiques. Mais en fait, ça m'intéresse plus d'en parler à travers ce que vous faites. Ce que vous faites au quotidien ouais, sur ce sujet-là. Donc, si bah, vous avez une association, vous êtes dans une association, vous avez un projet, vous voulez témoigner, raconter votre expérience d'action que vous menez en fait, pour changer le monde à votre échelle, ça m'intéresse. Je préfère largement qu'on donne des exemples à la façon de le film Demain. En fait, je ne sais pas si vous avez vu le film de Mélanie Laurent et Cyril Dion, qui est sorti l'année dernière, fin 2015 en fait, et qui, moi, c'était la première fois que je voyais un film qui n'édulcorait pas le constat, parce que le constat est grave, mais qui donnait des vraies solutions. Et pas des solutions de type écrivez à votre député, à votre sénateur pour lui dire que vraiment c'est important. Parce que je suis la première à dire qu'il faut faire ça. Les Américains, ils font beaucoup ça. Ils écrivent à leurs représentants et c'est un lobbying populaire. Nous, on le fait assez peu. Et pour avoir suivi des débats en live à l'Assemblée, encore une fois, les députés citent très régulièrement en disant j'ai été alerté par mes concitoyens sur ce sujet. J'ai reçu X courriers sur le sujet, etc. Donc en vrai, ils lisent, ils s'en servent. Mais en fait, au-delà de ça, je cherche des idées d'action qu'on peut mener, nous, individuellement, à notre échelle. Et pas dans l'objectif de dire « Eh ben, à vous de jouer, faites pareil », parce que je sais très bien, par exemple, que ça sert à rien que je dise « devenez vegan, en fait, commencez par là ». Moi, j'habite à Paris, dans l'arrondissement parisien, qui a le plus de cafés-resto vegan, où t'as un Naturalia, une Biocop, un Bio C'est Bon à chaque coin de rue. Donc, je vais bien me garder de faire la morale aux gens, car quand je vais chez mes parents en Moselle, eh bien, très loin pour faire 30 bornes de voiture pour aller s'acheter du tofu, écologiquement, on s'y retrouve pas. donc voilà, ce qui est intéressant, c'est vraiment de venir sans arrêt redonner de l'espoir, redonner de l'énergie aux gens qui sont déjà impliqués, qui font déjà des trucs à leur échelle. Parce qu'en plus, je pense que c'est comme ça qu'on arrivera, à faire vraiment bouger nos gouvernants sur le sujet. Moi, je me suis intéressée au programme écologique de Macron. Il est... c'était pas le meilleur programme écologique, enfin c'est pas le plus ambitieux on va dire, mais c'était loin d'être le plus catastrophique. Ça va sur le papier, ça va, mais je pense qu'effectivement si nous, la société civile, on se mobilise et on maintient la pression là-dessus et nous-mêmes on commence à faire entendre nos voix, mais encore une fois individuellement comme dans le film Demain quelque part, on est la meilleure force, la meilleure motivation pour avoir en face de nous quelqu'un qui va s'inspirer de ça en fait, rebondir là-dessus en disant bah voilà, la société est prête, on est prêt, on a envie que ça bouge, et ben c'est parti, ça bouge. Bien sûr, je suis très positive, optimiste et idéaliste dans la vie, sinon je serais pas devenue végétalienne en fait si je pensais pas que mes actions ont un impact. Donc je serais pas en train d'être rédactrice de Mademoiselle si je pensais pas que ma parole, que nos paroles mises ensemble, elles ont un impact. Donc je suis obligée de continuer à croire à ça et de vous le renvoyer en permanence en fait. Donc vous aussi, croyez en votre pouvoir d'action, croyez en votre voix et faites-les entendre.
Oh, je suis tout à fait d'accord avec ça. Merci. Je pense qu'on a toutes, on a tous et toute une responsabilité dans la société, et il faut trouver quels sont nos leviers à nous pour construire notre société idéale. Mais je pense qu'il faut pas qu'on en appelle tout le temps à nos représentants politiques, très simplement parce que c'est frustrant et on n'arrive malheureusement pas à grand chose. Tous les gens qui essaient de changer, j'allais généraliser, mais il y a beaucoup de gens qui essaient de changer les choses de l'intérieur et qui se cassent les dents, en fait, et qui sont détruits par ça. Je pense que nous, avec nos petites actions, moi, ce que je fais avec les internets, ce que je fais chez Mademoiselle, tout ça, déjà, c'est beaucoup plus gratifiant personnellement. Et en fait, il faut aussi, je pense, trouver une certaine forme de plaisir dans ce qu'on fait, parce que c'est ça qui va nous motiver à continuer à le faire. Donc déjà, c'est très gratifiant, mais en plus, c'est très direct comme impact. Donc je sais que c'est facile, en fait, ça peut paraître facile de dire ça quand nous, on a la tête dans le guidon et qu'en fait, on a trouvé notre voie. Et j'ai été dans cette période de ma vie où je me disais, à quoi je sers ? Quoi je sers, qu'est-ce que je fais, pourquoi. Et c'est pour ça que le secteur associatif aussi, ça a été un truc fulgurant pour moi, parce que dès le moment où j'ai compris à quoi je servais, j'ai pu développer tout mon potentiel dedans. Et il faut qu'on arrive à s'ouvrir ces portes-là. Et qu'on s'entraîne, en fait, peut-être tous dedans. C'est-à-dire, si on a des potes, je pense qu'on a tous des potes qui ont envie de s'engager et qui ne savent pas comment faire. Bah, si on est membre d'une asso, pourquoi pas leur demander de venir à une rencontre. Moi, je vais inviter tout le monde au pique-nique, au prochain pique-nique des internets, voilà. c'est comme ça, quoi.
C'est d'autant plus important qu'en fait, je pense que... Attention, c'est un... Je pense que c'est un conditionnement genré qu'on a, subi, nous, les filles. C'est une espèce d'injonction à la perfection. Et pour moi, je trouve que c'était en tout cas un frein à mon engagement pendant très longtemps. Voilà, quand je suis devenue féministe, j'étais incapable de rejoindre une association féministe. Parce qu'il n'y en a aucune qui était assez bien à mes yeux. C'est-à-dire que dans tous les courants féministes que je croisais, il y avait toujours un truc qui n'allait pas. Et au bout d'un moment, je me suis retrouvée un peu dans une position hyper critique vis-à-vis de toutes les assos féministes. Parce que j'avais l'impression de pas me retrouver à 100% dans ces combats-là. Dans tout ce qu'elles prenaient, leur façon d'agir, etc., etc. En fait, quand tu agis, ça n'est pas parfait. Quand tu fais une action, c'est forcément critiquable. Ça n'existe pas la perfection dans l'action, parce que déjà, entre ta pensée et ce que tu vas faire concrètement, il y a un décalage, c'est obligé, parce que personne d'autre n'est dans ta tête. Quand tu fais un truc, il y a des gens qui regardent, qui n'ont pas les mêmes infos, qui n'ont pas la même sensibilisation, etc. Donc des actions qui, pour toi, dans ton esprit, sont « c'est ça qu'il faut faire », potentiellement, ça produit l'effet inverse quand tu les réalises. Et le fait de développer plus indulgente en fait avec les gens qui font des trucs, je l'ai acquis en faisant moi-même des trucs et en me rendant compte que c'est dur en fait d'agir, de prévoir et de d'anticiper comment ça va être compris, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact, etc. Et je pense que plus on sera nombreuses à s'engager, peu importe la cause, que ce soit une cause ou pas une cause d'ailleurs, parce que juste être dans une association, faire des trucs, c'est pas forcément défendre une cause en particulier, c'est simplement agir, participer à la société. Ça t'apprend aussi vraiment à être indulgente envers les gens qui agissent. Et je pense que ça remplacerait une espèce d'esprit de compétition complexant qu'on peut avoir en un vrai esprit de solidarité. Je voudrais répondre à une question que j'ai envie de voir sur Facebook de Maud. Que répondre à l'attaque « Mademoiselle, c'est que pour les féministes véganes » que j'entends beaucoup trop. Eh ben, déjà, ça m'étonne que tu entendes autant cette attaque, parce que si je regarde le nombre d'articles féministes et ou véganes par rapport au nombre d'articles qui ne traitent pas du tout de ces sujets, qui sont pop, culture, beauté, mode, etc., cuisine, humour... Il y en a quand même beaucoup, beaucoup plus sur cette thématique que sur vraiment le féminisme vegan. Mais concrètement, pour répondre à cette critique, moi, c'est plus une critique qu'une attaque, je réfléchis de la façon suivante. C'est-à-dire que, mademoiselle, le pitch du magazine, c'est « Je ne suis pas celle que vous croyez ». Dans notre ligne éditoriale, on déconstruit en permanence le fait de mettre les filles dans les cases, de sans arrêt leur balancer des injonctions. Okay. Donc, quel que soit le sujet qu'on aborde, c'est jamais pour dire « faites ça, ça c'est mieux, ça c'est ce qu'il faut faire ». Donc, mademoiselle n'est pas plus pour les féministes véganes que pour les fashion victimes, les beauty stars, insérer ici étiquette qu'on colle à l'un ou l'autre type de fille. En fait, mademoiselle, c'est pour tout le monde. Et si dans un article, tu perçois comme ça de l'injonction à te conformer à quelque chose, n'hésite vraiment pas à nous le signaler dans les commentaires. On est hyper attentive à ça. Parfois, ça peut nous arriver de ne pas nous rendre compte qu'on est en train d'être trop dans l'injonction en rédigeant un article. Et c'est vraiment toujours intéressant de venir nous le signaler. Donc non, c'est pas du tout... c'est pas plus pour les féministes véganes que pour toutes les autres. C'est juste que c'est un magazine qui n'exclut pas, en fait, que ce soit les féministes véganes ou... alors je dis les fashion victims parce que du coup, c'est un peu le cliché à l'autre extrême du spectre de la femme moderne. Non seulement on les exclut pas, mais en plus on les... hiérarchise pas, en fait. C'est pas mieux d'être féministe vegan que d'être fashion victim, addict shopping ou que sais-je encore, en fait. C'est juste, est-ce que t'es bien dans ta peau? Est-ce que t'es bien dans ta vie? Est-ce que t'es heureuse comme ça? Qui suis-je pour te juger?
C'est super beau.
Merci beaucoup.
Et c'est pour ça d'ailleurs que je travaille chez Mademoiselle, parce que cette dimension d'intérêt général, je la retrouve aussi dans l'esprit du magazine et de la rédaction. Et c'est très précieux, tellement précieux, surtout dans le milieu des médias. Voilà.
Est-ce que tu as d'autres expériences, peut-être sans les nommer, qu'est-ce que tu as trouvé de différent chez Mademoiselle par rapport à d'autres expériences professionnelles que tu as pu avoir?
Waouh. Alors, j'ai eu une expérience professionnelle récemment qui a été assez malheureuse, avec pas mal de violences morales, de gens qui se tiraient dans les pattes, qui me tiraient dans les pattes alors que j'étais là que de façon temporaire. Et du coup, toute la bienveillance qui est affichée clairement sur le site, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'équipe de façon très... c'est constitutif quoi de l'équipe de Mademoiselle, et c'est vraiment ça qui m'a frappée quand je suis arrivée. Je parle pas de mon expérience à Animafac, parce que chez Animafac aussi j'ai retrouvé cette bienveillance entre les gens, le fait de pas se juger, etc. Mais disons que j'ai eu un truc entre deux où c'était plus compliqué. Et je pense que c'est peut-être dans la capacité à travailler ensemble en bonne intelligence et cette notion de solidarité au sein de l'équipe qui m'a le plus marquée. Et c'est pas évident dans le monde. Je tiens à dire, en fait, je pense que c'est pas représentatif du monde du travail.
Ça n'est pas représentatif du monde du travail. oui, c'est. Je confirme malheureusement. je vais rebondir, mais avant ça, j'ai une question. Coucou Laure. Qui me demande, Clémence, je passe le grand oral Sciences Po Lyon, dans 2 heures, je stresse, un conseil.
Tu vas gérer.
Oui, j'ai un conseil. Donc le grand oral, pour ceux qui connaissent pas, à Sciences Po, c'est un exercice un peu mythique. Tu tires un sujet, un sujet de dissertation. Parfois, ça peut être un petit texte, etc. Et en fait, t'as 1 heure dans une salle pour préparer, 10 minutes d'intervention. Tout ce que t'as pour t'aider, c'est une feuille et un stylo, hein, donc rien. Souvent, je pense que tu vas tirer la question, c'est vraiment faux. Moi, je conseille d'aller là-dessus. J'avais tiré la gestation pour autrui. C'est tout. C'était pas une question, j'ai tiré ça en 2009. Donc, on était pré-manif pour tous et compagnie. Ouais. Donc, vraiment, c'était pas un sujet qui était sur la place publique, etc. Du coup, mon conseil pour le grand oral, en premier lieu, dis-toi que ce que tu as à dire est intéressant. Quand tu vas tirer le sujet, tu vas avoir des inspirations, plusieurs inspirations qui vont s'entrechoquer. Et note-les tout de suite au brouillon, comme ça, tout de suite, tout ce qui te vient, tu le notes. Utilise en fait ta peur, utilise ton stress, c'est une énergie. Au lieu de la laisser te paralyser, la peur, ça peut paralyser, mais ça peut aussi être un moteur, ok? En vrai, il y a plusieurs réactions face à la peur, c'est d'être figé sur place, ou justement de prendre la fuite et se barrer. Donc là, je te conseille de pas prendre la fuite, d'utiliser cette énergie-là pour réfléchir vite au sujet. Tes premières inspirations, tu les notes, et ensuite, tu les organises et tu réfléchis. C'est quoi le lien entre les différentes parties du sujet? Joue sur tes forces. Deuxième point, en voyant le sujet, si tu vas en tirer quelque chose, tu vas raccrocher à quelque chose que tu connais. Parce que en plus, si t'as peur, tu cherches la sécurité. Donc, quand tu lis le sujet, tu penses à quelque chose que tu connais déjà, que tu sais déjà. Raccroche-le à ça. OK? À partir de là, tu prends tes premières idées, tu prends le truc sur lequel tu es en sécurité, peut-être qu'il y a plusieurs idées qui vont te venir, et tu construis quelque chose à partir de ça. Un plan de grand oral, c'est deux parties, deux sous-parties. C'est quoi la question qui permet dont la réponse permet de dérouler tes idées à toi? Voilà.
La problématique.
Voilà, c'est ta problématique. Et tu utilises le reste du temps que tu as à ta disposition pour construire ton introduction. Et quand tu as fini tout ça, tu prends tout le temps qui te reste pour réfléchir à ton accroche. Et voilà, vous avez préparé votre grand oral à Sciences Po. Bon courage! Ça marche pour tous les examens oraux, ça marche pour n'importe quel examen, d'utiliser son stress comme une force et de se raccrocher, de prendre surtout ses premières inspirations, ses premiers réflexes, parce que surtout quand tu as passé une année d'études derrière toi, t'as des trucs en tête, donc les premières choses qui te viennent, c'est ça coule tout seul, il faut les saisir et de les rattacher à tes forces pour avoir de la confiance en fait en arrivant dans la salle. Et avant de commencer, on respire, on baisse les épaules,
on boit de l'eau.
Pas comme ça, voilà, ça baisse les épaules, respire. Avant chaque prise de parole, respire. 10 minutes, c'est long, alors parle lentement, respire, et tu vas voir, ça va couler tout seul. Tiens-moi au courant, ok? Il y a du décalage sur YouTube, donc je n'ai pas dans la réponse maintenant. Mais envoie-nous un petit message, Laure, et bon courage. Si je panique, je cite Mademoiselle. Excellente référence.
Accepté dans tous les grands oraux. Voilà.
On parlait de quoi juste avant? Ah oui, on parlait du fait que Mademoiselle est une exception dans le, dans le monde professionnel, du monde du travail. Ouais, sans doute. Ouais, sans doute. J'attends de voir un peu. Je suis très curieuse de voir ce que va devenir Mademoiselle à l'avenir. Je vois que Netflix fait des séries sur des entreprises type Girl Boss sur Nastigal. Franchement, moi, je pense qu'un jour, il faudra faire une série sur Mademoiselle.
Prochain 10%.
Ah ouais, grave. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, ça fait une heure qu'on est là, donc on va peut-être pas tarder. Tama Noah, encore, coucou, qui nous demande quel est votre meilleur souvenir chez Mademoiselle?
Il y en a tellement. Moi, la première grosse stuff que j'ai organisée toute seule, parce que en fait, j'ai organisé deux grosses stuff depuis que je suis arrivée, tous en scène à la Babyloise en janvier. Et le 25 mars au flot sur une péniche. Et tous en scène, j'ai eu un coup de main des mecs qui nous aidaient jusque-là à organiser les gros stuff. Et en fait, celle du 25 mars, j'ai été dans le grand bain toute seule. Et le grand bain, on peut dire que c'est la Seine, puisque c'était une péniche sur la Seine. Okay. et du coup, cette grosse stuff-là, en fait, j'ai été assez émue de l'organiser. Genre, il était 3h du matin et je me revois au milieu de la salle avec les gens qui sont juste à fond sur le karaoké parce qu'on a changé d'heure en fait à ce moment-là et on était encore dans le karaoké à ce moment-là. Et je me revois au milieu de ces 600 personnes qui chantent la chanson de Titanic en chœur et je me dis, c'est moi qui ai fait ça. Waouh! Et c'était vraiment très fort et je me souviens que Fab est arrivé à ce moment-là et m'a dit bravo en fait. Et c'est aussi ça, quand je dis la bienveillance chez Mademoiselle, c'est qu'il y a de la reconnaissance pour tout ce qu'on fait, ce qui n'est pas non plus quelque chose d'évident dans le monde du travail. Et ça m'a confortée encore plus dans le fait que j'avais bien fait les choses du premier coup. Et du coup, j'en étais très contente.
Est-ce que tout s'est merveilleux? C'est bon. On a paniqué, tout s'est merveillé. Alors moi, ça fait vraiment un moment que je suis là, donc c'est plus difficile de choisir mon meilleur souvenir chez Mademoiselle. Peut-être prendre le truc dont je suis le plus fière. Alors je suis très fière hein, vraiment d'avoir pu interviewer Najat Vallaud-Belkacem pour le 8 mars ici. C'est vrai que ça, c'était vraiment un grand moment pour moi, mais pour l'équipe en fait. C'est un truc qu'on a fait à plusieurs, c'était vraiment fou. Mais le truc dont je suis plus fière, je pense que c'était en février la même année, quand il y a l'assistante parlementaire de Marie Leverne, qui est députée, qui nous a mentionné sur Twitter parce que c'est elle, la députée, qui avait mis dans la loi un amendement pour lutter contre le harcèlement sexiste dans les transports. Et l'amendement venait d'être supprimé par le Sénat. Et donc, son assistante nous mentionnait en tweetant le communiqué de presse où elle déplorait le fait que le Sénat ait supprimé cet amendement. Et en fait, dans la foulée, je l'ai appelée, parce que tous les contacts des députés sont publics. J'ai eu son assistante, on a discuté. Dans la soirée, j'ai écrit un article. Le lendemain, j'ai poqué Anaïs Bourdet de Pejtachnek pour lui dire... es-tu au courant de ça? Voilà, moi je fais un travail de journaliste qui est de voilà l'information, voilà ce qui se passe. Et elle fait derrière une action militante qui est à partir de l'information, voilà ce qu'on peut faire pour se mobiliser. Et ce qu'elle a fait, donc nous après on relaie à nouveau la mobilisation, information, mobilisation. mobilisation a été lancée par Anaïs Bourdet, Pejtachnek, ok? Et qu'en fait, ce cercle vertueux-là a fait qu'une semaine plus tard, le Sénat réintégrait l'article dans la loi. Alors là, vraiment, je ne vais pas dire que c'est la fierté de ma vie, parce que c'est un peu dramatique, mais de se dire que... En fait, c'est ça que je veux, être utile, c'est ça. C'est de se dire, je vous disais tout à l'heure, on a toute une voix, on a tout un pouvoir d'action. En fait, on a fait ça tout ensemble. C'est-à-dire que c'est pas moi, dans mon coin, en écrivant un article, qui ai fait réintégrer la loi. Et c'est pas Anaïs Pejtachnek, derrière sa page Facebook, qui a fait réintégrer la loi, mais c'est elle, plus moi, plus les dizaines de milliers de personnes qui ont signé la pétition, qui l'ont relayée, qui l'ont partagée, qui l'ont commentée, qui l'ont envoyée à leurs députés, à leurs sénateurs. C'est nous tous ensemble, en fait, qui avons fait ça. Je vous propose qu'on fasse ça toutes les semaines.
Mais c'est vrai qu'on a une force de lobbying tout ensemble qui est super, super importante. C'est beau.
On va vous laisser, on va s'arrêter là. Et bah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, j'ai envie de dire. Mais vraiment, à une prochaine fois, si ça vous a plu. Déjà, une prochaine fois avec d'autres membres dans l'équipe, avec plaisir. Et retrouvez-nous en live. C'est quand le prochain live, Louise ?
Alors ce soir, il y a un live jeu vidéo animé par Lise, notre rédactrice jeu vidéo, à 20h. Et à 21h, c'est ça qu'on aime jeudi, comme d'habitude. Et émission la semaine prochaine, le 16.
Trop bien.
Ce soir, One Night Show, gros stuff, le 19 mai.
Oui
bah, bah, bah. Merci beaucoup, Internet.
Merci, Internet.
À bientôt.
Well, sometimes every day's the same different day, and sometimes the smallest thing is so much bigger, so much different thing, 'cause I believe in karma. Everything you do will spin back at you. 'Cause love is and always will be the winner. I believe we can. I believe we can, we will do what we will. You're always so fresh, so fly, but you never think to look at the beauty in the sky. We only love with ourselves, we fail to be with each other. It really is the small things that makes the world so much better. People that pick you up the moment the sun comes up, the heaven above the look of love. I believe we can. I believe we can. We can, we will do what we will. As long as we keep it real.